da Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus în închisoare, Iisus s-a dus în Galileea și, părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftalim, ca să se împlinească ceea ce s-a scris prin Isaia, prorocul care zice: Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare, și celor care ședeau în umbra morții, lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Lecture du Saint-Évangile selon Saint-Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus, ayant appris l'arrestation de Jean, regagnant la Galilée, et quittant Nazareth, vint s'établir à Capernaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Neftalim. Ainsi devait s'accomplir cet oracle du prophète Isaïe: Terre de Zabulon, terre de Neftali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations. Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les obscurs parages de la mort, une lumière a resplendi. À partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher ainsi: Repentez-vous, car il est proche le royaume des cieux.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, vous savez déjà, on est encore dans la fête de l'Épiphanie, qu'on l'a fêtée le 6 janvier, jeudi, et qui nous rappelle du fait que le Christ, notre vrai Dieu, une personne de la Sainte Trinité, s'est fait homme, et en qualité d'homme, il a accepté tout le trajet qu'un homme peut le faire, inclus le baptême que Jean le prophète faisait à l'époque. Mais un baptême qui, l'Évangile nous dit que c'était un baptême qu'avec de l'eau, sans que l'Esprit Saint soit donné. Parce que vous savez que dans le baptême qu'on fait aujourd'hui, dans le baptême chrétien, on croit que celui qui est baptisé, il est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que c'est la grâce de Dieu qui vient sur celui qui est baptisé. Avant le christianisme, avant de la venue du Christ, avant de la venue de notre Dieu sur la terre, bien sûr, ce chose n'était pas possible. C'était le baptême de Jean, le baptême que Jean faisait dans ce temple-là, c'était qu'un symbole du baptême qui devait venir, et le baptême qui deviendra plus tard le baptême chrétien, le baptême fait, comme j'ai dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Christ vient, le vrai Dieu vient, il se fait homme, il s'est soumis à ce baptême qui en fait n'était pas grand-chose, le baptême de Jean, pour nous montrer que voilà la voie royale que lui-même, le Christ lui-même a assumée, c'est la voie d'humilité. La voie royale, c'est la voie d'humilité. Il aurait pu très bien se dispenser de ce baptême de Jean. Il n'avait pas besoin, notre Dieu n'a pas besoin de rien. C'est notre Dieu que vous confessiez chaque liturgie, que c'est lui qui a créé la terre et le ciel, toutes les choses visibles et invisibles. Comment est-ce qu'il aurait pu avoir besoin d'un baptême fait par un homme? Bien sûr que non. Mais quand même, il accepte le baptême de Jean pour nous montrer que voilà, lui, Dieu, vrai Dieu, il s'est fait homme. Il accepte cet état d'humiliation pour nous montrer que la voie royale, la voie du vrai salut, c'est la voie qui doit passer par un état d'humiliation. Autrement, ce n'est pas possible. Autrement, ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment ça sonne en français, humilité, mais en roumain, on a un terme qui est plus complexe, qui est smerenie, qui est plus intégral. Quand tu dis smerenie en roumain, tu dis pas seulement humilité. Ça peut avoir des connotations un peu en français, des connotations un peu qui sont pas très bien. Mais quand tu dis smerenie, tu dis cet état quand tu te mets dans le main de Dieu et quand tu laisses travailler Dieu en toi-même. Sans promouvoir ta personnalité, mais laisser Dieu travailler en toi-même par ton état d'humilité, par ton état de smérénie. Je crois que c'est une leçon pour tous, c'est une leçon pour tous le baptême du Christ. Je crois qu'on peut et on doit apprendre tous cette leçon d'humilité. Voilà notre Dieu qui s'est fait homme et qui accepte un baptême de quelqu'un qui était sa créature. Qui était sa créature. Imaginez-vous que vous, des créatures de Dieu, vous aurez eu la chance de baptiser le Christ. C'était la même chose. Donc le Christ qui vient s'humilier et qui accepte le baptême pour nous tous. Et parce que j'ai touché cet aspect de l'humilité, qui après toute la tradition orthodoxe, c'est le centre de la vie spirituelle. Sans humilité, on ne peut pas être orthodoxe. Si vous pouvez vous imaginer, ça n'existe pas. Toujours quand on se met devant le prêtre dans la confession, devant l'icône dans nos prières, chez nous, à l'église, toujours on doit apporter avec nous cet état d'humilité, cet état de patience, cet état de, comment est-ce que je peux dire, de laisse faire Dieu, laisse travailler Dieu en nous. Pas s'opposer à sa volonté. Travailler bien sûr avec Dieu, mais pas s'opposer, pas mettre en premier plan notre personnalité. Je crois que le plus grand péché du monde, c'est ça, c'est de ne pas avoir l'humilité. Si vous lisez beaucoup de prières, si vous êtes intéressé, dans beaucoup de prières, les pères des églises qui ont écrit, qui ont prié avec ces prières, ils ont écrit que le diable, il est tombé de son état angélique à cause de ça, à cause de la manque d'humilité et à cause de son orgueil. Et dans cette perspective je vous demande de regarder un peu la perspective du péché. Il ne faut pas ignorer la perspective du péché. Je vous ai dit une fois, l'année dernière, parfois on a une perspective très optimiste sur les choses, et c'est bien de l'avoir. Mais en même temps, attention, vous ne pouvez pas ignorer la présence du péché dans vos vies. C'est très important. C'est très important. C'est un combat. La vie d'un chrétien, la vie d'un orthodoxe, c'est un combat. Ce n'est pas une, je sais pas, un état de contemplation devant la beauté de l'orthodoxie ou, je ne sais pas, devant des choses qui nous attirent vers l'orthodoxie. Ça peut être un premier pas. Mais après, on entre dans le combat. Et le combat, ce n'est pas facile, parce que c'est notre combat pour notre salut. C'est notre combat qu'on doit mener chaque jour, chaque moment de notre vie, avec nos passions. N'ignorez pas les passions qui peuvent entrer dans chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous n'est pas épargné par les passions. Attention, des passions corporelles, des passions sexuelles, des passions d'orgueil, des passions toutes sortes. Il faut faire attention, parce que si on ouvre un peu la porte, après, il y a le risque qu'on ne peut plus faire face, on peut plus faire face à toutes les sortes de choses qui entrent en nous. Le péché n'est pas un acte juridique qu'on fait et pour lequel Dieu nous punit. Non, le péché, c'est que nous-mêmes, nous coupons notre vie de la source, de la grâce et de la vie, qui est le Christ. Amartia en grec, signifie manquer le but. Amartia signifie péché en grec. Et ayez toujours dans vos manières de penser cet aspect. Amartia, péché, signifie manquer le but. Manquer le but. C'est-à-dire, au lieu d'aller vers Dieu, on a manqué le but. Et c'est pas Dieu qui nous punit. Il y a un petit lieu dans l'Évangile qui est très, on peut pas le comprendre tout de suite, mais qui dit d'une manière très intéressante, Dieu ne juge personne. Dieu ne juge personne. C'est vous-même qui vous jugez par vos actions. Parce que si on croit que Dieu il veut que tout le monde soit sauvé, c'est une vérité qu'on ne doit pas l'oublier. Dieu veut que toute sa créature soit sauvée. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que la réalité de l'enfer est très présente. Et la réalité du péché est très présente. Ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de nous. Voilà, donc, acceptez cet état d'humilité que le Christ lui-même a accepté comme homme, et vous allez voir que vous allez découvrir en vous-même la force de dépasser un peu un état que je nommerais un état de péché. Analysez-vous un peu en vous-même, sans trop insister sur le péché, bien sûr, mais analysez-vous et pas ignorez. Ignorez pas le fait que le péché peut travailler en vous. Je répète, dans toutes les sortes de directions, je vous recommande de lire plutôt des livres ascétiques, des livres de pères de l'Église qui parlent sur cette combat qu'on doit faire. Saint Jean, qu'on a l'icône au fond de l'Église, Saint Jean le Climax, qui a écrit une œuvre magnifique sur le trajet de l'homme parmi les passions. Et comment est-ce que tu peux passer par-dessus des passions, de tes passions? Quel instrument vous pouvez utiliser pour passer? Voilà, c'est la confession, c'est l'Eucharistie, c'est l'Église. Mais toujours, ne restez pas dans un monde clos. Toujours, soyez ouverte à la réalité que voilà, toujours, il y a la possibilité que le péché travaille en vous. Mais comme le psaume dit, très beau, c'est qui plus grand que notre Dieu? Et je me demande, c'est qui plus grand que notre Dieu aussi, je me demande. Rien ne peut vaincre notre Dieu. Et si on a comme fondement Dieu, je vous assure que le péché, en étant conscient de sa présence dans nos vies, n'aura plus de pouvoir sur nous. Je m'arrête ici en vous conseillant de penser chaque année, quand il y a la fête de l'Épiphanie, à cet aspect. que le Christ, il est venu s'humilier pour nous donner un exemple très fort que nous-mêmes, nous devons nous humilier. Que Dieu nous bénisse avec joie, avec cette fête qui est passée, avec beaucoup de grâce dans nos cœurs, et dans nos maisons, dans nos familles. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de cette fête reste pour toute l'année dans vous tous. Amen. Que Dieu vous bénisse.